L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkine. Une transformation analogue se produit en même temps dans les sciences qui traitent de l'homme. Aussi voyons-nous que l'histoire, après avoir été l'histoire des royaumes, tend à devenir l'histoire des peuples, puis l'étude des individus. L'historien veut savoir comment les membres dont se composait cette nation vivaient à telle époque, quelles étaient leurs croyances, leurs moyens d'existence, quel idéal social se dessinait devant eux, et quels moyens ils possédaient pour cheminer vers cet idéal. Et par l'action de toutes ces forces, jadis négligées, il interprétera les grands phénomènes historiques. De même, le savant qui étudie la jurisprudence ne se contente plus d'étudier tel ou tel code. Comme l'ethnologue, il veut connaître la genèse des institutions qui se succèdent. Il suit leur évolution à travers les âges, et, dans cette étude, il s'applique bien moins à la loi écrite qu'aux usages locaux, aux droits coutumiers, dans lesquels le génie constructif des masses inconnues a trouvé son expression à toute époque. Une science toute nouvelle s'élabore dans cette direction et elle promet de bouleverser les conceptions établies que nous avons apprises à l'école, arrivant à interpréter l'histoire de la même manière que les sciences naturelles interprètent les phénomènes de la nature. Enfin, l'économie politique, qui fut à ses débuts une étude sur la richesse des nations, devient aujourd'hui une étude sur la richesse des individus. Elle tient moins à savoir si telle nation fait ou non gros commerce extérieur, elle veut s'assurer que le pain ne manque pas dans la chaumière du paysan et de l'ouvrier. Elle frappe à toutes les portes, à celle du palais comme à celle du taudis, et demande aux riches comme aux pauvres « Jusqu'à quel point vos besoins de nécessaire et de luxe sont-ils satisfaits ?» Et comme elle constate que les besoins les plus pressants de bien-être ne le sont pas pour les 9/10 de l'humanité, elle se pose la question que se poserait un physiologiste devant une plante ou un animal. Quels sont les moyens de satisfaire aux besoins de tous avec la moindre perte de force? Comment une société peut-elle garantir à chacun, et conséquemment à tous, la plus grande somme de satisfaction et de bonheur? C'est dans cette direction que la science économique se transforme, et après avoir été si longtemps une simple constatation de phénomènes interprétés dans l'intérêt des riches minorités, elle tend à devenir, ou plutôt elle élabore les éléments pour devenir, une science au vrai sens du mot, une physiologie des sociétés humaines. En même temps qu'une nouvelle vue d'ensemble, une nouvelle philosophie s'élabore ainsi dans les sciences. Nous voyons aussi s'élaborer une conception de la société tout à fait différente de celles qui ont prévalu jusqu'à nos jours. Sous le nom d'anarchie, surgit une interprétation nouvelle de la vie passée et présente des sociétés, en même temps qu'une prévision concernant leur avenir, conçue l'une et l'autre dans le même esprit que la conception de la nature et dont je viens de parler. L'anarchie se présente ainsi comme une partie intégrante de la philosophie nouvelle, et c'est pourquoi l'anarchiste se trouve en contact sur un si grand nombre de points avec les plus grands penseurs et poètes de l'époque actuelle. En effet, il est certain qu'à mesure que le cerveau humain s'affranchit des idées qui lui furent inculquées par les minorités de prêtres, de chefs militaires, de juges tenant à asseoir leur domination et de savants payés pour la perpétuer, une conception de la société surgit, dans laquelle il ne reste plus de place pour ces minorités dominatrices. Cette société, rentrant en possession de tout le capital social accumulé par le travail des générations précédentes, s'organise pour mettre ce capital à profit dans l'intérêt de tous et se constitue sans refaire le pouvoir des minorités. Elle comprend dans son sein une variété infinie de capacités, de tempéraments et d'énergie individuelle, elle n'exclut personne. Elle appelle même la lutte le conflit, parce qu'elle sait que les époques de conflit, librement débattues, sans que le poids d'une autorité constituée fût jeté d'un côté de la balance, furent les époques du plus grand développement du génie humain. Reconnaissant que tous ses membres ont, de fait, des droits égaux à tous les trésors accumulés par le passé, elle ne connaît plus la division entre exploité et exploiteur, entre gouverné et gouvernant, entre dominé et dominateur. et elle cherche à établir une certaine compatibilité harmonique dans son sein, non en assujettissant tous ses membres à une autorité qui, par fiction, serait censée représenter la société, non en cherchant à établir l'uniformité, mais en appelant tous les hommes au libre développement, à la libre initiative, à la libre action et à la libre association. Elle cherche le plus complet développement de l'individualité, combiné avec le plus haut développement de l'association volontaire sous tous ses aspects, à tous les degrés possibles, pour tous les buts imaginables. Association toujours changeante, portant en elle-même les éléments de sa durée, et revêtant les formes qui, à chaque moment, répondent le mieux aux aspirations multiples de tous. Une société, enfin, à laquelle les formes préétablies, cristallisées par la loi, répugnent, mais qui cherche l'harmonie dans l'équilibre, toujours changeant et fugitif, entre les multitudes de forces variées et d'influences de toute nature, lesquelles suivent leur cours, et, précisément grâce à la liberté de se produire au grand jour et de se contrebalancer, peuvent provoquer les énergies qui leur sont favorables quand elles marchent vers le progrès. Cette conception et cet idéal de la société ne sont certainement pas nouveaux. Au contraire, quand nous analysons l'histoire des institutions populaires, le clan, la commune, le village, l'union de métiers, la guilde et même la commune urbaine du Moyen-Âge à ses premiers débuts, nous retrouvons la même tendance populaire à constituer la société dans cette idée. Tendance qui fut toujours entravée, d'ailleurs, par les minorités dominatrices. Tous les mouvements populaires portaient plus ou moins ce cachet, et chez les anabaptistes et leurs précurseurs, nous trouvons les mêmes idées nettement exprimées, malgré le langage religieux dont on se servait alors. Malheureusement, jusqu'à la fin du siècle passé, cet idéal fut toujours entaché d'un esprit théocratique, et ce n'est que de nos jours qu'il se présente débarrassé des langes religieux, comme une notion de la société déduite de l'observation des phénomènes sociaux. C'est seulement aujourd'hui que l'idéal de société où chacun ne se gouverne que par sa propre volonté, laquelle est évidemment un résultat des influences sociales que chacun subit, s'affirme sous son côté économique, politique et moral à la fois, et qu'il se présente appuyé sur la nécessité du communisme, imposé à nos sociétés modernes par le caractère éminemment social de notre production actuelle. En effet, nous savons fort bien aujourd'hui qu'il est futile de parler de liberté tant que l'esclave économique existe. Ne parle pas de liberté, la pauvreté, c'est l'esclavage, n'est plus une vaine formule. Elle a pénétré dans les idées des grandes masses ouvrières, elle s'infiltre dans toute la littérature de l'époque, elle entraîne ceux-là même qui vivent de la pauvreté des autres et leur ôte l'arrogance avec laquelle ils affirmaient jadis leur droit à l'exploitation. Que la forme actuelle d'appropriation du capital social ne peut plus durer, là-dessus, des millions de socialistes dans les deux mondes sont déjà d'accord. Les capitalistes eux-mêmes sentent qu'elle s'en va et n'osent plus la défendre avec l'aplomb d'autrefois. Leur seule défense se réduit au fond à dire « vous n'avez rien inventé de mieux ». Quant à nier les conséquences funestes des formes actuelles de la propriété, ils ne le peuvent pas. Ils pratiquent ce droit tant qu'on leur laisse encore la latitude, mais sans chercher à l'asseoir sur une idée. Cela se comprend. Voyez par exemple cette ville de Paris, création de tant de siècles, produit du génie de toute une nation, résultant du labeur de 20 ou 30 générations. Comment soutenir devant l'habitant de cette ville, qui travaille chaque jour à l'embellir, à l'assainir, à l'alimenter, à la pourvoir de chefs-d'œuvre du génie humain, à en faire un centre de pensée et d'art, comment soutenir devant lui, qui crée tout cela, que les palais qui ornent les rues de Paris appartiennent en pleine justice à ceux qui en sont aujourd'hui les propriétaires légaux, alors que nous tous en faisons la valeur, puisque sans nous, elle serait nulle. Pareille fiction peut se maintenir pendant quelque temps par l'adresse des éducateurs du peuple. Les gros bataillons ouvriers peuvent même ne pas y réfléchir. Mais du moment qu'une minorité d'hommes pensants agite cette question et la soumet à tous, il ne peut plus y avoir de doute sur la réponse. L'esprit populaire répond « c'est par la spoliation qu'ils détiennent les richesses ». De même, Comment faire croire aux paysans que cette terre seigneuriale ou bourgeoise appartient au propriétaire en droit légitime, lorsque le paysan nous dira l'histoire de chaque lopin de terre à 10 lieues à la ronde? Comment lui faire croire surtout qu'il soit utile pour la nation que monsieur un tel garde cette terre pour son parc, alors que tant de paysans des alentours ne demandent qu'à la cultiver? Comment faire croire enfin à l'ouvrier de telle usine ou au mineur de telle mine que l'usine et la mine appartiennent équitablement à leurs maîtres actuels, alors que l'ouvrier et même le mineur commencent à voir clair dans les Panamas, les pots de vin, les chemins de fer français ou turcs, le pillage de l'État et le vol légal sur lesquels se bâtit la grande propriété commerciale ou industrielle? Au fait, les masses ont-elles jamais cru aux sophismes enseignés par les économistes, plutôt pour confirmer les exploiteurs dans leurs droits que pour convertir les exploités? Écrasés par la misère, ne trouvant aucun appui dans les classes aisées, le paysan et l'ouvrier ont simplement laissé faire, quitte à affirmer leurs droits de temps à autre par des jacqueries. Et si tel ouvrier des villes a pu croire un moment que le jour arriverait où l'appropriation personnelle du capital profiterait à tous, en constituant un fonds de richesse au partage desquels tout le monde serait appelé, cette illusion s'en va aussi comme d'autres. L'ouvrier s'aperçoit que déshérité il fut, déshérité il reste, que pour arracher à ses maîtres la moindre partie des richesses constituées par ses efforts, il doit recourir à la révolte ou à la grève, c'est-à-dire s'imposer les transes de la faim et affronter l'emprisonnement, si ce n'est s'exposer aux fusillades impériales, royales ou républicaines. Mais un mal autrement plus profond du système actuel s'affirme de plus en plus. C'est que dans l'ordre d'appropriation privée, tout ce qui sert à vivre et à produire, le sol, l'habitation, la nourriture et l'instrument de travail, une fois passé aux mains de quelques-uns, ceci empêche continuellement de produire ce qui est nécessaire pour donner le bien-être à chacun. Le travailleur sent vaguement que notre puissance technique actuelle pourrait donner à tous un large bien-être, mais il perçoit aussi comment le système capitaliste et l'État empêchent dans toutes les directions de conquérir ce bien-être. Loin de produire plus qu'il ne faut pour assurer la richesse matérielle, nous ne produisons pas assez. Le paysan, quand il convoite les parcs et les jardins des flibustiers de l'industrie et des panamistes, autour desquels le juge et le gendarme montent la garde, comprend cela, puisqu'il rêve de les couvrir de récoltes qui auraient, il le sait, porté l'abondance dans les villages où l'on se nourrit de pain à peine arrosé de piquettes. Le mineur, lorsque 3 jours par semaine il est forcé de se promener les bras ballants, pense aux tonnes de charbon qu'il pourrait extraire et dont on manque partout dans les ménages pauvres. Le travailleur, lorsque son usine chôme et qu'il court les rues à la recherche de travail, voit les maçons chômer comme lui, alors qu'un 1/5 de la population de Paris habite des taudis malsains. Il voit les cordonniers se plaindre de manque d'ouvrage alors que tant de gens manquent de chaussures et ainsi de suite. En effet, si certains économistes se plaisent à faire des traités sur la surproduction et s'ils expliquent chaque crise industrielle par cette cause, ils seraient cependant bien embarrassés si on les sommait de nommer un seul article que la France produise en quantité plus grande qu'il n'en faut pour satisfaire les besoins de toute la population. Ce n'est certainement pas le blé, le pays est forcé d'en importer. Ce n'est pas non plus le vin. Les paysans n'en boivent que bien peu et lui substituent la piquette. Et la population des villes doit se satisfaire de produits frelatés. Ce ne sont évidemment pas les maisons. Des millions vivent encore dans des chaumières à 1 ou 2 ouvertures. Ce ne sont même pas les livres, bons ou mauvais, qui sont encore un objet de luxe pour le village. Un seul article est produit en quantité plus grande qu'il n'en faut, c'est le budgétivore. Mais cette marchandise ne figure pas dans les cours d'économie politique, alors qu'elle en a bien les attributs, puisqu'elle se vend toujours au plus donnant. Ce que l'économiste appelle surproduction n'est ainsi qu'une production qui dépasse la force d'achat des travailleurs, réduits à la pauvreté par le capital et l'État. Or, cette sorte de surproduction reste fatalement la caractéristique de la production capitaliste actuelle, puisque, Proudhon l'avait déjà bien dit, les travailleurs ne peuvent pas acheter avec leur salaire ce qu'ils ont produit et grassement nourrir en même temps les nuées d'oisifs qui vivent sur leurs épaules. L'essence même du système économique actuel et que l'ouvrier ne pourra jamais jouir du bien-être qu'il aura produit, et que le nombre de ceux qui vivent à ses dépens ira toujours en augmentant. Plus un pays est avancé en industrie, plus ce nombre est grand. Forcément encore, l'industrie est dirigée, et devra être dirigée, non pas vers ce qui manque pour satisfaire aux besoins de tous, mais vers ce qui, à un moment donné, rapporte les plus gros bénéfices temporaires à quelques-uns. De toute nécessité, l'abondance des uns sera basée sur la pauvreté des autres, et le malaise du grand nombre devra être maintenu à tout prix afin qu'il y ait des bras qui se vendent pour une partie seulement de ce qu'ils sont capables de produire. Sans cela, point d'accumulation privée du capital. Ces traits caractéristiques de notre système économique en font l'essence même. Sans eux, il ne peut exister, car qui donc vendrait sa force de travail pour moins que ce qu'elle est capable de donner s'il n'y était forcé par la menace de la faim? Et ces traits essentiels du système en sont aussi la plus écrasante condamnation.